1, 2, test, test, micro.
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 Microscopie.
La société au microscope.
Camille Geoffrey, Édouard Zambeau.
Ils m'ont donné 1 euro d'augmentation de pension et 24 euros par mois d'augmentation de loyer. 2 millions de personnes dans la rue l'autre fois, j'ai vu. Oui. Et je suis tombé à la place de la République. Qu'est-ce que j'ai vu? C'était incroyable, j'ai jamais vu ça. Et puis, je me suis mis dans le cortège parce que j'ai dit, bah après tout, moi aussi, je suis pauvre. Alors tout le monde est pauvre. Il n'y a que le gouvernement qui est riche. À lui, il n'en peut plus d'avoir des ronds.
Bonjour et bienvenue dans Microscopie. Moi aussi, je suis pauvre. Quelle révélation. Ils sont de plus en plus nombreux, hein, parmi les 14 millions de retraités à se faire cette cruelle remarque après une vie de travail. Là aussi, la crise frappe durement la majorité. Dans cette période où la France s'étrangle fréquemment, hein, en découvrant le montant faramineux des retraites dorées que se concoctent les grands patrons ou les cadres dirigeants, plus de 600 000 retraités se contentent, eux, du minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, c'est 677 euros par mois, depuis une conséquente augmentation de 7%, c'était il y a quelques jours, le 1er avril dernier, un montant qui reste tout de même près de 150 euros en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, dans le même temps, les vieux servent aussi de bouc émissaire ou d'exutoire pour expliquer les dérives ou des situations bloquées. Ils s'enquisteraient dans le marché du travail, bloquant l'accès ou la progression des plus jeunes. Ils auraient, à force de se gaver aux frais de l'État, creusé la dette publique. Et bien sûr, ils coûteraient cher, très cher aux jeunes actifs, en dépenses de santé et de retraite, bien sûr. Et ça ne fait que commencer, hein, tant les statisticiens annoncent un tsunami démographique. C'est la nouvelle expression à la mode qui risque de nous submerger, d'autant plus, et c'est un fait malheureux, peut-être, mais nous vieillirons tous. Quoi qu'il en soit, il semble donc qu'il ne fasse pas bon être vieux aujourd'hui en France, surtout quand on n'a pas de retraite chapeau ou de compte bancaire dans les paradis fiscaux. C'est ce que dénoncent les associations de défense des retraités et des personnes âgées, en tout cas. Difficulté d'accès aux soins, conditions de logement délicates, appauvrissement. Les signes sont nombreux selon ces observateurs. Nous allons donc essayer cette semaine dans Microscopie de jeter un regard sur la vieillesse ou sur la retraite plutôt. Est-elle synonyme d'épanouissement personnel ou de fin de mois difficile? Est-elle le moment de l'expérience reconnue et valorisée ou celui du dénigrement? Les vieux vivent-ils dans l'opulence et le confort, ou l'expression que l'on glisse affligée à ceux que l'on plaint en leur donnant du pauvre vieux, cette expression prend-elle tout son sens? Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos deux invités et grâce aux différents témoignages recueillis par Aline Leclerc. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous recevons donc Claude Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le vieux dans ce studio, vous êtes aussi le président de l'Union Nationale des Retraités et des Personnes Âgées, l'UNRPA, une association créée au lendemain de la guerre, hein, en 1945, et qui revendique un petit peu plus de 100 000 adhérents, c'est bien ça?
Oui.
Vous défendez quoi à l'UNRPA?
C'est tout simplement la défense des intérêts des retraités et des personnes âgées, et surtout intégrer le ludique comme une thérapie pour les anciens et non pas comme un but en soi.
Ils s'appauvrissent, vos adhérents?
Oui.
Clairement. On en reparlera. Nous recevons également Jérôme Pélissier. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur et écrivain, vous êtes un spécialiste de psychogérontologie, vous avez publié plusieurs ouvrages, un roman d'abord et puis ensuite des essais, hein. Le premier sur la des ouvrages sur la vieillesse, La nuit tous les vieux sont gris, La société contre la vieillesse, c'était sous-titré comme ça, hein. Et plus récemment vous avez publié La guerre des âges, ça c'est aux éditions Armand Collin. Pour commencer, je vous propose d'aller à la rencontre, hein, de André Desrichard. Il a 66 ans, il est à la retraite depuis 6 ans. Et il raconte simplement la dégradation de son niveau de vie au micro d'Aline Leclerc.
La première heure et le déplacement d'un électricien. Chaud devant.
Quand on a travaillé toute une vie comme ça et qu'on s'aperçoit qu'on arrive à la retraite où on pourrait compter vivre, pas bien, mais vivre décemment, c'est vrai que c'est un peu compliqué. André Desrichard, j'ai 66 ans, je suis retraité donc depuis 6 ans maintenant. Ma retraite mensuelle du régime général, elle est de un peu plus de 1000 euros par mois. Alors d'abord, le niveau est pas très élevé, quoique je suis pas parmi les plus bas. J'ai une perte de pouvoir d'achat régulière chaque année, parce que là, si on prend par exemple pour 2008, ma retraite a augmenté de 1,36%. Si j'ai par exemple mon loyer, lui, qui a augmenté de 2,95%. Si j'ajoute après les produits alimentaires de première nécessité, qui ont augmenté plus que l'indice des prix, ou le gaz, l'électricité, notamment en 2008 avec le choc pétrolier. Donc, vous voyez, ça fait une perte du pouvoir d'achat importante.
Ce que vous dites, c'est que votre retraite, en fait, elle augmente pas aussi vite ni que votre loyer, ni que certains produits de première nécessité.
Que les produits d'utilisation courante.
Ça fait combien de temps que vous habitez ici, vous ?
J'habite ici, là, depuis 8 ans. Mon loyer mensuel, il est de 776 € par mois. Avec une somme pareille en fonction de ma retraite, c'est vrai que j'ai, y compris, intérêt à faire très, très attention à mon budget, parce que c'est vraiment très serré.
Vous me dites un peu plus de 1 000 € de retraite, oui. Un peu plus de 700 € de loyer, oui. Ça fait qu'en gros, une fois que vous avez payé votre loyer, vous reste 300 € pour finir le mois.
Un petit peu plus, parce que j'ai au-delà de ça ma retraite complémentaire que je touche tous les 3 mois. Mais bon, qui s'élève à 500 € tous les 3 mois, et ce qui fait que bon, entre-temps, il faut réussir à vivre. Alors, je jongle. Alors, j'ai passé une période un peu difficile. Où, comme des millions de gens, j'avais pris des dispositions un peu dans la facilité, avec une accumulation de crédits revolving. C'est un crédit, vous avez une somme d'argent à votre disposition, et vous payez tous les mois, mais quand vous payez vos mensualités, le montant des intérêts sont plus importants que le montant du crédit lui-même, quoi. C'est-à-dire, ça revient très très cher. Alors en plus, c'est tellement facile. C'est vrai que vous êtes un peu en difficulté. Vous recevez des coups de fil régulièrement, des textos. Voilà, si vous êtes en difficulté, vous pouvez débloquer tant. Alors, ça, c'est la facilité.
Je vois pas d'écran plat chez vous.
Ah non, pas du tout.
Je vois pas de canapé rutilant.
Ah non, absolument. Non, j'ai pas acheté de mobilier, j'ai pas acheté de voiture. Non, c'était simplement pour boucler mes fins de mois.
Vous en avez pris jusqu'à combien des crédits ?
Ben, j'avais le crédit que j'ai arrêté. Là, il s'élevait à plus de 20 000 € et j'avais des mensualités de 580 € par mois. Puis là, j'étais vraiment arrivé au taquet. C'est-à-dire que là, la seule chose sur laquelle je pouvais rogner, c'était le loyer. Alors, si le jour où vous ne pouvez plus payer votre loyer, là, vous tombez dans le gouffre, carrément, quoi. Alors, heureusement, bon, comme ma situation devenait catastrophique, j'ai des amis qui m'ont aidé financièrement, ce qui fait que j'ai arrêté ce crédit. Et donc, bon, là, j'arrive un peu, mais enfin, faut pas s'écarter, quoi.
Vous vous êtes senti au bord du gouffre, justement,
à un moment ? Ah, tout à fait. J'étais vraiment arrivé, j'avais la tête, au bord du précipice, là.
Comment on se sent dans ces moments-là ?
Mal, très très mal, très très mal. Surtout quand on a travaillé comme moi, j'ai cotisé 43 ans à la Sécurité sociale.
Qu'est-ce que c'était votre travail ?
Ben moi, j'ai travaillé comme vendeur au Galeries Lafayette à Paris. Je suis rentré dans la vie active à 17 ans. Moi, je suis dans la catégorie des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui pensaient qu'à la retraite, ils pourraient faire des choses qu'ils n'avaient pas pu faire durant leur vie active, parce que faute de temps, etc. Or, à la retraite, quand on est en situation difficile parmi les retraités, le premier budget sur lequel on rogne, c'est le budget culture et loisirs. C'est vrai que bon, je peux pas aller au cinéma, je peux pas aller au théâtre. Alors j'aimerais aller au théâtre, j'aimerais aller au concert, j'aimerais faire des choses que je peux pas faire parce que financièrement je ne peux pas.
Je vois que vous portez des lunettes et oui. Vraisemblablement aussi un appareil dentaire.
Tout à fait. Et là, bon, je vous le dis comme ça, mais je devrais par exemple faire revoir mes yeux, enfin aller chez l'ophtalmo. Je devrais également aller chez le dentiste, mais dans l'immédiat, je peux pas, parce que financièrement, je peux pas. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Comme les retraités, c'est quand même la tranche de la population qui a le besoin le plus de se faire suivre médicalement, de se soigner, etc. Et là aussi, on est obligé de faire des choix. Et bon, les problèmes de dents, mes problèmes de mes yeux, bon, ça passe en second. Il n'y a pas beaucoup de retraités qui parlent de leur vie aussi, d'une façon, j'allais dire, aussi sereine que moi je peux le faire. Parce que pour les retraités, je crois qu'il y a aussi un peu une dignité de ne pas avouer qu'on est en difficulté, quoi. Ça ne veut pas dire que moi je n'ai pas de dignité, mais moi je pense que je ne suis pas forcément responsable à moi tout seul de cette situation-là, quoi.
Aujourd'hui, 1er avril, il y a une revalorisation des retraites de 1%. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, 1% de plus ?
Ah ben 1% sur 1 000 €, ça doit faire 10 € par mois. Donc 10 €, vous voyez, ça va pas m'embellir mon quotidien. Hein.
Microscopie, la société au microscope.
Claude Bernard, en plus de cette revalorisation de 1% des retraites, il y a eu donc le 1er avril 6,9% attention d'augmentation du minimum vieillesse, c'est Noël en avril.
C'est surtout après 4 mois, on a déjà rabioté 4 mois parce que ça devait être au 1er janvier. Faut arrêter, c'est de la farce.
C'est beaucoup pourtant 7% d'augmentation.
Oui, c'est beaucoup. 7% d'augmentation sur 38 millions de retraites, c'est beaucoup. Mais sur une retraite à 700 euros...
Qu'est-ce que vous réclamez en termes de revendications, vous?
Moi, je pense qu'il faudrait qu'on calcule un minimum, pour tout Français, un minimum de vie. Qu'on puisse vivre avec une somme, qu'on puisse manger correctement, se vêtir correctement, se loger correctement. Pas un SMIC, non. Le minimum à partir duquel on ne peut décemment pas vivre.
Jérôme Pélissier, est-ce que cet appauvrissement des vieux, des retraités, il est inéluctable? Et quelle ampleur il a, vous qui travaillez là-dessus?
Il n'est pas inéluctable. Rien n'est inéluctable qui dépend de la politique qu'on va mener ou qu'on mène ou qu'on laisse mener. Après, il faut juste le replacer dans l'histoire. On a vécu, et c'est pour ça qu'on a du mal, ces dernières années, qu'on a eu du mal à voir ce retour d'une certaine manière de la pauvreté des vieilles personnes, parce que entre les années 60 et les années 2000, on a chaque année une diminution en France du nombre de personnes âgées pauvres. Voilà. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle, hein, ce mouvement-là.
Jusqu'à l'an 2000.
À peu près, non. Non, je dis l'an 2000, jusqu'à à peu près les années 2000. Hein. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le fait d'avoir de nouveau tout un tas de signaux d'alarme, tout un tas d'indications qui nous permettent de voir qu'on a de nouveau une augmentation du nombre de personnes âgées pauvres, qu'on a une augmentation du nombre de personnes âgées à la rue. Hein, l'âge des gens qui vivent à la rue augmente d'année en année de manière assez importante. Et on a énormément d'indicateurs qui nous indiquent que dans les années 2020, 2030, etc., à cause notamment de tout un tas de phénomènes qu'on connaît déjà aujourd'hui, puisque les vieux de demain sont des gens qui ne sont pas encore aujourd'hui. On aura, oui, tout à fait, c'est nous, entre autres. Et voilà, on sait déjà qu'on aura, si on ne fait rien justement, qu'on aura de nouveau des situations très nombreuses de grande pauvreté pour un nombre important donc de personnes âgées dans les années, dans les dizaines d'années à venir.
Claude Bernard, l'UNRPA, quand ça a été créé, c'était plus la volonté de s'occuper et de proposer des loisirs aux retraités. Aujourd'hui, vous avez un peu changé votre fusil d'épaule et vous pensez que c'est plus ça la priorité.
Mais je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Pélissier d'ailleurs, et on le constate nous dans les faits. Hein. Une période assez...
bénie.
Oui, où en fait, on s'est occupé que du ludique. Puis une période qui est en train de glisser de plus en plus, et nous on le voit en fait parce qu'on a ce qu'on appelle un comité de solidarité vieillesse, on fait appel à des donateurs extérieurs comme des donateurs, mais pour rembourser des prothèses dentaires, des prothèses oculaires ou des prothèses auditives ou l'accompagnement à l'hôpital. Et on voit une demande exponentielle ces derniers temps, et ça ce sont des signes qui ne trompent pas.
Sur quel terrain médicaux est-ce que les carences sont les plus graves aujourd'hui? À quoi renoncent en premier les retraités qui n'ont pas les moyens de se soigner, Jérôme Pélissier?
Le monsieur qu'on a entendu dans le reportage l'a un peu dit, les soins dentaires, hein, énormément, la qualité des lunettes, des appareils auditifs par exemple, et une partie, et c'est là qu'il y a vraiment un problème, parce que là aussi on est dans un système, tout ce qu'on économise sur la prévention, on le paiera trois fois plus cher quelques années après, avec des maladies et des handicaps qui seront beaucoup plus graves. Donc c'est vraiment une politique en plus stupide, hein, même en termes économiques, d'essayer d'économiser sur ce type de dépenses-là, parce que ça va provoquer des types de handicap ou de maladies dans les années qui suivent, qui seront beaucoup plus coûteux.
Comment se fait-il qu'on nous dise à tous en permanence que la sécurité sociale nous coûte de plus en plus cher et que les personnes âgées n'y sont pas pour rien? Il n'y a pas d'économie.
Non, mais il y a plusieurs choses. Déjà, que la sécurité sociale coûte cher, tant mieux. Tant mieux, au sens où ça ne veut pas dire qu'on est plus malade, au contraire, on est moins malade aujourd'hui qu'il y a 100 ans, mais on est bien mieux soigné aujourd'hui quand on est malade qu'il y a 100 ans. Le fait que dans une... Enfin, je veux dire, on va pas réinventer ce que dit l'ONU régulièrement ou l'UNICEF. Le fait d'avoir dans un pays une augmentation des dépenses de santé, d'éducation, etc., ce sont des facteurs de civilisation. Voilà, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du gâchis sur certains aspects, mais globalement, tant que les dépenses de santé augmentent, ça correspond à une augmentation de l'accès aux soins, de la qualité des soins, des appareillages, de tout un tas de choses. chose. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, le problème, c'est la manière justement dont c'est présenté et la manière dont on accuse en quelque sorte parfois les retraités ou les vieilles personnes d'être responsables de ça. Là aussi, il faut replacer les choses. On est plus, heureusement, qu'on est plus malade à 90 ans qu'à 30. Si vous allez dans les pays où ce ne sont pas les vieux malades qui coûtent cher, c'est parce que les gens ont des maladies graves et mortelles à 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Hein. C'est une très bonne nouvelle, là aussi, que d'avoir un report des maladies et des derniers mois de la vie, qui sont les mois les plus coûteux en termes de santé, plutôt entre 80 et 100 ans qu'entre 20 et 40.
Claude Bernard, votre expérience personnelle, le moment de la retraite, pour vous, ça correspond à des choix qui sont peut-être draconiens, personnels. Vous avez renoncé à des choses. Il y a des choses que vous n'aviez plus les moyens de vous payer.
Ah oui, maintenant c'est clair. Ça, c'est, il est évident que le rêve des vacances ailleurs, c'est fini.
Les adhérents de l'UNRPA sont-ils épanouis? Je veux dire, vos vieux sont-ils heureux ou pas?
Quand on les voit, en fait, quand on les réunit, quand on est autour d'un repas, ils sont tous gais, ils sont tous joyeux. Et aucun problème. Mais en fait, c'est assez factice. Derrière, il y a une réelle difficulté de vivre, surtout à l'heure actuelle, et surtout, de plus en plus, les gens, ils pensent aussi à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et ils ne savent pas trop, parce qu'il faut voir combien, en fait, de personnes âgées aident leurs enfants et aident leurs petits-enfants. En retour, combien d'enfants aident leurs grands-parents.
On essaiera de voir dans la deuxième partie de cette émission les solidarités familiales, mais je reviens à la première question. L'augmentation, là, le président de la République a promis 25% d'augmentation du minimum vieillesse en 4 ans maintenant, et il lui reste 4 ans pour le faire. Si cette promesse est tenue, c'est inédit, ça n'a jamais eu lieu.
Oui, mais s'il la tient comme il tient celle de grande range, on n'est pas clair.
Mais c'est quand même quelque chose de satisfaisant pour vous d'obtenir ce genre de promesse, ou c'est
Non, la promesse ne dit rien. Pour celui qui a faim, pour celui qui a besoin, c'est tout de suite, c'est pas dans 5 ans. Si vous pouvez pas vous payer une prothèse dentaire à l'heure actuelle, vous avez deux choses qui apparaissent tout de suite, mais immédiatement. Un, vous avez honte, parce que parler sans dents, c'est quelque chose qui se remarque très vite. Et vous avez honte, vous reculez, vous disparaissez. Et on vous soigne, en fait, parce que vous avez un stress. Du coup, la sécurité sociale paye. Puis ensuite, il y a un problème d'alimentation. Et on vous soigne parce que vous avez un problème d'alimentation. Et la sécurité sociale paye. Et je rejoins M. Pélissier. Si on avait fait une politique de prévention, il n'y aurait pas de problème.
Vos adhérents, ce que vous êtes en train de nous dire, Claude Bernard, c'est que vos adhérents les plus modestes disparaissent du jeu social, en quelque sorte.
Tout à fait. On fait du ludique. Du ludique, en tant que, je répète, comme thérapie, c'est-à-dire un moyen de se regrouper, d'être ensemble, de ne pas s'isoler. Si vous faites que du ludique où on joue aux cartes, les gens qui vont venir sont ceux qui n'ont pas de moyens. Ceux qui ne viendront pas sont ceux qui ont des moyens. Si vous faites que des sorties de plusieurs jours, viendront les gens qui ont les moyens. Les autres, vous ne les verrez plus. Et finalement, le seul lien qui peut les lier, c'est le lien social.
Ce sur quoi vous insistez, c'est le phénomène de disparition sociale des vieux les plus modestes.
Ah oui, ça c'est clair, ça. Alors là, ce sont ceux que vous retrouvez en train de faire la manche ou en train de chercher à manger. Ils vous disent rien.
L'isolement.
Oui. Ah, ils vous disent rien.
Jérôme Bélissier, statistiquement, c'est quelque chose que vous avez constaté aussi?
Alors, si vous me permettez peut-être de revenir un tout petit peu en arrière sur, juste simplement, quand on parle des vieux pauvres, n'oublions pas aussi que beaucoup de pauvres ne deviennent jamais vieux.
Oui.
Oui. Non, mais parce que on parle tellement de la révolution de la longévité, de l'augmentation de l'espérance de vie, etc. Il y a toujours aujourd'hui environ 30% de la population française qui meurt avant 75 ans. C'est-à-dire qu'il y a quand même à peu près un tiers de la population qui ne vivra jamais la vieillesse. Et parmi ce tiers-là, voilà, en gros, il y a quand même plus d'ouvriers que d'avocats ou de professeurs d'université. Donc ça, il faut pas l'oublier. Hein. Voilà. Après, peut-être juste un mot par rapport à cette histoire d'augmentation du minimum vieillesse. Là aussi, les promesses, en effet, n'engagent que ceux qui y croient. Mais ce qui est important par rapport à ça, c'est que même si on avait aujourd'hui une augmentation de 25% de ce minimum vieillesse, on aurait un minimum vieillesse...
Il resterait toujours en dessous du seuil de pauvreté.
Non, mais surtout, il rejoindrait son niveau qui était celui de 1984. Hein, par rapport, parce que indépendamment de la somme, ce qui est important aussi, c'est de faire un petit peu la comparaison entre le minimum vieillesse et le revenu médian.
Et le pouvoir d'achat qu'il procure.
Voilà, parce que c'est le lien entre justement les actifs, les retraités, etc. On a un minimum vieillesse qui, des années 80 aux années 2000, a décroché peu à peu et a diminué. Voilà. Donc si on l'augmentait aujourd'hui de 25%, il retrouverait son niveau d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il serait à peu près à 50% du revenu médian.
De toute façon, on le voit bien, la majorité des vieux, des retraités qui vivent avec le minimum vieillesse n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On verra ça dès le début de la deuxième moitié, par une illustration, un reportage d'Anine Leclerc. Je propose tout de suite de prendre connaissance des principes au titre de l'actualité mondiale grâce à la rédaction d'RFI. Nous, on se retrouve juste après le flash avec nos deux invités, c'est-à-dire dans, 3 minutes et quelques poussières de secondes.
Microscopie à suivre.